2 Corinthiens 5, 11 à 21, page 1309. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences, et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Le contexte de cette lettre de Paul aux Corinthiens, c'est que les Corinthiens sont en train de comparer l'apôtre Paul avec ceux qu'ils surnomment les super apôtres. Alors vous dites, super apôtres, ça sonne bien, j'aimerais bien l'avoir dans mon église. Sauf que il ironise en les appelant super apôtres. Ce sont des soi-disant super apôtres qui... Il y a une allusion au verset 12 à des lettres de recommandation. Ils veulent se présenter comme des super apôtres aux Corinthiens. Et en fait, on peut résumer les choses dans le fait qu'il est dit ici qu'ils mettent leur fierté dans les apparences plutôt que dans le cœur. Et ce qu'on va faire tout au long de ce passage, c'est un peu aller au cœur, à la fois au cœur des motivations de l'apôtre Paul. Il va lui donner son ministère, pour l'annonce de l'Évangile, quelles sont ses motivations. Mais on va aller aussi au cœur de sa perspective, de la manière dont il voit la vie. Et ensuite, on va aller au cœur de l'Évangile. Ce sera les trois points. Au cœur de ses motivations, au cœur de sa perspective, au cœur de son message. Avant de se lancer, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi l'apôtre Paul mentionne dans ce qu'il écrit là, une fierté, alors qu'il dit qu'il... met sa fierté dans ceci, dans l'annonce de l'Évangile. Est-ce qu'il fait bien de devoir parler de fierté? Est-ce qu'il fait bien de vouloir justifier son ministère? Est-ce que c'est au verset 12, est-ce que c'est légitime qu'il soit souhaité que les Corinthiens soient fiers à son sujet? Est-ce qu'il n'est pas trop focalisé, en gros, sur lui-même? Alors, à différents endroits dans la lettre, on voit que l'apôtre Paul n'a pas de plaisir à devoir parler de lui-même. Il va même parler, chapitre 11, d'expériences surnaturelles qu'il a connues, parce que c'est ce que font les super apôtres. Et en le faisant, il va parler de ses faiblesses, du moment de honte aussi qu'il a connu. Ici, au verset 13, quand il dit paraître à certains moments comme fou et d'autres moments comme raisonnable, c'est pas pour lui-même, mais c'est pour les Corinthiens, c'est pour le Seigneur. Comment dit, ce qu'il dit sur lui-même, c'est pas pour se mettre en avant, mais c'est plutôt pour... Parce qu'il est conscient qu'en glissant loin de son apostolat, loin de son message, ils sont en train de se détourner de l'Évangile. C'est pour le Seigneur qu'il dit ça. Parce qu'il est conscient que c'est à lui qu'il est redevable. C'est pour les Corinthiens qu'il fait ça, parce qu'ils sont en train de glisser loin de l'Évangile. Là, il veut dans cette section, parler un peu de ses motivations, de sa perspective, de son message. Alors, au cœur de ses motivations, et c'est l'occasion pour nous de réfléchir à nos motivations, que ce soit pour l'annonce de l'Évangile, mais que ce soit aussi pour le fait d'être engagé dans une église, si vous êtes engagé dans cette église. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans une église? Il se pourrait que ce soit simplement, pour vous et pour moi, une habitude. Nos parents se sont engagés dans une église et ont reproduit le même schéma. Tout simplement par un désir de satisfaction aussi. Il faut une certaine satisfaction à faire partie d'un projet, d'un groupe, d'atteindre certains objectifs. Ou alors, peut-être parce qu'on essaie de se justifier, par orgueil, par désir de s'émerveiller des dons qu'on a. Si je réussis bien dans tel ministère, je saurai que je suis quelqu'un de bien. Et soyons honnêtes, on a tous eu l'une ou l'autre, ou chacune de ces motivations, à un moment ou à un autre. Moi-même, en préparant des messages régulièrement, je dois régulièrement me repentir. Un désir de trouver une satisfaction, d'approbation, de devoir me justifier à travers la préparation de messages. Mais l'intérêt de ce passage, c'est que l'apôtre Paul nous donne des belles motivations, des bonnes motivations pour son ministère. Et il n'entre pas dans une liste exhaustive, mais il nous donne en tout cas deux qu'on voit au verset 11. Ainsi, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Et au verset 14, c'est que l'amour de Christ nous presse. Deux motivations que l'apôtre Paul donne pour son ministère et pour l'annonce de l'Évangile. Comment penser la crainte du Seigneur? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Peut-être qu'on peut essayer d'illustrer par contraste. Certainement, si vous avez fait un achat ou acheté des billets pour un voyage, vous avez certainement reçu un email qui vous demandait de recommander tel ou tel produit, ou tel voyage, telle ou telle compagnie. Qu'est-ce que vous avez fait de cet email? Est-ce que vous avez rempli les questions, la recommandation? Si vous êtes comme moi, la plupart d'entre elles, qui répondent pas. Pourquoi? Parce qu'on estime peut-être que chacun peut chercher lui-même le produit qu'il cherche. Ils le trouveront, ceux qui cherchent, par eux-mêmes. Et ce serait facile de penser l'annonce de l'Évangile dans ces mêmes termes. De se dire que chacun, à sa façon, peut trouver. Chacun peut chercher comme il veut. Voir ce qui est approprié pour lui. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut voir l'annonce de l'Évangile? Pour l'apôtre Paul, il est conscient qu'il y a une crainte du Seigneur à avoir, qu'il y a une urgence, quelque chose de beaucoup plus essentiel dans l'annonce de l'Évangile que dans une simple recommandation d'un produit. C'est une question de vie ou de mort, et il sait que lui-même, il est redevable au Seigneur. C'est pour ça qu'il parle de crainte du Seigneur, tout en ayant confiance dans le fait de rencontrer le Seigneur, ce qui est bien compliqué. Plusieurs reprises, la confiance, il y a en même temps une crainte parce qu'il se sait redevable de la manière dont il gère ce message qu'il a reçu. Ça, c'est la première motivation que l'apôtre Paul donne, la crainte du Seigneur, à la fois le sentiment de redevabilité vis-à-vis de Dieu, mais aussi le sentiment d'urgence vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas cet évangile, qui courent à leur perte. Et la deuxième motivation, c'est que l'amour du Christ nous presse, au verset 14, pensant à cet amour de Christ qui nous presse, on va faire un petit exercice, si vous voulez bien. Vous allez faire une petite liste mentale, et très honnête, des personnes pour lesquelles vous seriez prêt à mourir. Pensez aux personnes pour lesquelles vous seriez prêt à mourir. Sur votre liste, peut-être si on est honnête, il n'y a personne sur la liste. Ou alors il y aura des parents, un époux, des enfants, des amis proches. Est-ce qu'on serait prêt à mettre des enfants innocents pour Dieu. Mais qui ici a même imaginé mettre quelqu'un qui l'a personnellement blessé, offensé? Quelqu'un a pensé mettre une personne qui l'a offensé par sa manière de parler, par sa manière de faire? Est-ce qu'on a même imaginé mettre sur sa liste une personne comme cela? Et pourtant, Christ nous a mis sur sa liste. Et l'apôtre Paul est bien placé pour parler de ça, lui qui a persécuté les croyants, les hommes et les femmes, qui les a fait mourir, etc. Christ dira que c'est lui-même qu'il persécute, et pourtant Christ l'a mis sur sa liste, il est mort pour lui. Et en sachant ça, l'apôtre Paul ne peut plus vivre comme avant. C'est pour ça qu'il dit que l'amour du Christ le presse, parce qu'il ne va plus pouvoir vivre comme avant. Qu'est-ce que ça change si on comprend ces deux motivations? Quand j'étais plus jeune, j'ai lu la biographie de Charles Studd. Je me souviens avoir été frappé par la trajectoire de cet homme. Il a grandi dans une famille aisée en Angleterre, ses études à Eton, Cambridge ensuite. C'était un joueur de cricket très bon dans sa génération, il a fait partie de l'équipe d'Angleterre, de haut niveau. Et il a tout quitté pour se rendre en Chine et par la suite en Afrique pour annoncer l'évangile. Et comment est-ce que Stade expliquait ce changement de trajectoire? Les deux motivations qu'on trouve ici se retrouvent un peu dans son histoire. Pour commencer, quand son frère tombe gravement malade, sur le point de mourir, il est confronté à la question, et je le cite, « Quelle est la valeur de tout l'honneur et la flatterie quand un homme fait face à l'éternité? » Quelle est la valeur de tout l'honneur et la flatterie quand un homme fait face à l'éternité? Et il réalise qu'en recherchant une gloire comme il le faisait jusque-là, il passe à côté de l'essentiel, il veut se consacrer à sauver des hommes et des femmes pour l'éternité. La deuxième motivation a été aussi présente dans son parcours. Écoutez la citation qui résume bien en fait sa vie. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je puisse faire pour lui. Si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors il n'y a aucun sacrifice trop grand que je ne puisse faire pour lui. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a le reflet de ces motivations, cette crainte du Seigneur et cet amour qui nous presse. Et l'apôtre Paul nous amène plus loin encore, il nous amène au cœur de sa perspective, il a parlé du cœur de ses motivations et il entre dans le cœur de sa perspective. Je viens de parler un peu du témoignage de Charles Studd, mais plusieurs commentateurs voient dans les versets 14 à 17 une sorte de témoignage de l'apôtre Paul en filigrane du renversement qui s'est opéré dans sa vie. Il vient de parler de ses motivations, mais il parle ici ensuite de la nouvelle naissance qui s'est opérée dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait de telles motivations, pour qu'il change du tout au tout? Quel est le contraste entre l'avant et l'après? Pensez à la motivation qu'il avait pour aller à Damas. Est-ce que c'est l'amour qui le poussait à aller à Damas pour persécuter les chrétiens? Pas du tout. C'est la haine. C'est la haine pour le Christ. La haine pour les chrétiens qui l'ont mené là-bas. Mais maintenant, c'est l'amour de Christ qui le presse. Comment est-ce qu'il se considérait avant? Avant, il se considérait dans son bon droit, il se considérait comme juste, droit, intègre. Maintenant, il se considère comme mort avec Christ. Et il dit de vivre plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Comment est-ce qu'il considérait Jésus avant sa conversion? Il le considérait comme un usurpateur, un blasphémateur. Quelqu'un qui se prétendait être Dieu, mais qui est mort dans la honte et le scandale de la croix. Maudit de Dieu, quand Dieu voit perçoit plus de cette façon-là. Il le voit au contraire comme le Messie, le Fils de Dieu qui est mort pour lui. Comment est-ce qu'il considère sa conversion? Ben, rien de moins qu'une nouvelle création. Comme une nouvelle création, quelque chose aussi radical que ça. Sa perspective sur la vie, elle a totalement changé avec sa conversion. Si on a expérimenté cette conversion, ce changement de perspective devrait avoir lieu en nous aussi. Pour prendre un exemple, est-ce qu'on va voir sa vie comme une vie qu'on doit vivre pour soi, simplement en attendant de nous rapprocher à vivre simplement pour soi? Ou est-ce qu'on va vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? Est-ce que je vais me rassurer parce que j'ai tel ou tel don, soit sur le plan du travail ou dans un ministère? Ou est-ce que je vais être rassuré régulièrement parce que je suis en Christ? Est-ce que je vais percevoir les autres de manière toute humaine? Ou est-ce que je vais les percevoir comme Christ les perçoit? Par exemple, est-ce que je vais avoir plus d'entrain avec telle personne qui a une certaine prestance, qui est bien appréciée des autres, et moins d'entrain super apôtres continueront à donner plus d'importance à ce qui est de belle apparence, mais l'apôtre Paul, dans sa perspective, il a changé. Il a reconnu que Christ même avant tout, en Christ, qu'il voyait avant comme un usurpateur, un blasphémateur, quelqu'un de maudit au bois, faible, mort, en toute faiblesse, il le voit désormais comme le Messie, fils de Dieu. Ne voit plus de la même façon ceux qu'il doit servir, les faibles, les fous, ceux qu'on méprise. Et il y a de quoi s'émerveiller. Il y a de quoi s'émerveiller de ce que Christ a accepté de mourir pour les ennemis. Voici aussi le témoignage d'Ahmed qui s'est débaptisé. Je me souviens de cette phrase qu'il disait quand il réfléchissait à qui serait prêt à mourir pour lui. Est-ce que son père serait prêt à mourir pour lui? Est-ce que vos parents seraient prêts, auraient été prêts à mourir pour lui? Là, c'est quelqu'un de sa propre famille. Christ est mort pour lui, comme pour ses ennemis, alors qu'il est rejeté. Souvenez ce chant, la puissance de la croix, Fils de Dieu, tu es pour nous. Quel amour, quel prix, la croix nous donne le pardon. Et on arrive ensuite au cœur de son message. Et c'est un peu comme si on vivait des cercles concentriques avec à l'extérieur le cœur de ses motivations, le cœur de sa perspective, sa manière de voir, de sa conversion. Et on arrive au cœur du message, l'évangile. Et c'est comme s'il nous amenait là, au cœur, ce qui l'a transformé, ce qui a changé sa perspective sur la vie, ce qui a changé ses motivations, c'est le message au cœur. Ici, l'apôtre Paul va parler en termes de réconciliation, mais aussi en termes de sacrifice. Et si on parle en termes de réconciliation, d'abord, c'est qu'il faut réaliser que par nature, nous sommes en hostilité avec Dieu. Il y a des hostilités qu'on perçoit facilement quand on regarde les nouvelles. On perçoit l'hostilité entre l'Iran et Israël, on perçoit l'hostilité entre deux nations, on perçoit l'hostilité entre deux courants politiques, à gauche, à droite. On arrive à percevoir ces hostilités-là, mais est-ce qu'on arrive à percevoir par nature notre hostilité avec Dieu? Une illustration assez limite, mais je ne sais pas si vous avez vu la grande vadrouille, le clip funèse, c'est un vieux classique. Il y a ce moment où Louis de Funès se rend dans un hôtel sur la frontière avec la France libre. Et il pense rentrer dans la chambre de Bourville. Mais en fait, c'est dans la chambre de l'officier allemand qui est à sa poursuite qu'il entre. Il sait que Bourville ronfle. Et là, l'homme qui est couché à côté de lui ronfle et il va tout faire pour l'arrêter. Il siffle, il fait du bruit avec sa bouche, il tape sur la devanture de lui. Mais quand il réalise à qui qui il a affaire, c'est-à-dire l'officier qui fait sa fonction, alors là, c'est une autre chanson. Il se fait tout petit, il se couvre de son drap, il parle avec une toute petite voix, parce qu'il réalise le degré d'hostilité, d'aliénation avec celui qui le poursuit. Mais c'est un peu pareil avec nous. Par nature, on prend facilement Dieu de haut, en estimant que c'est à lui de montrer qu'il a, de montrer patte blanche, ou alors de montrer ce qu'il a dans le ventre, pour venir à notre secours. Un des défis dans l'annonce de l'Évangile, c'est d'affirmer qu'on doit être réconcilié avec Dieu. Et beaucoup, quel est le problème? C'est Dieu qui a un problème. Dieu qui a un problème avec le mal, Dieu qui doit se justifier de la souffrance qui existe dans le monde. Combien de personnes estimeront que c'est ça le problème? C'est Dieu qui doit régler le problème du mal, régler le problème de nos souffrances. Mais ce n'est pas Dieu qui a un problème avec le mal. C'est nous qui avons un problème avec le mal. Et de son côté, Dieu a tout fait pour nous réconcilier avec lui-même. Regardez le verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Quand deux parties sont en hostilité, on a l'habitude qu'un tiers entre en jeu pour favoriser la réconciliation. Il n'y a pas longtemps, mes parents sont d'origine d'Irlande du Nord. On a célébré en avril les 20 ans du processus de paix en Irlande du Nord. Et on sait que pour que ce processus de paix ait lieu, il a fallu l'engagement de Clinton, de Tony Blair et des engagements financiers conséquents pour que ce processus de paix puisse se faire. On a l'habitude d'un tiers entre en jeu pour favoriser cette réconciliation. Mais ici, la surprise, la première surprise, c'est que c'est Dieu lui-même, le parti offensé, qui paye le prix de la réconciliation. C'est lui qui a été offensé et c'est lui qui prend l'initiative de la réconciliation. Et plus que cela, c'est lui qui paye le prix de la réconciliation par la vie de son propre fils. La deuxième surprise, c'est qu'il a choisi de faire de nous des ambassadeurs. Si votre pays choisissait de faire de vous un ambassadeur, une ambassadrice, j'imagine que vous serez surpris. Et si vous ne l'êtes pas, nous, on sera surpris à votre place. On serait surpris qu'une nation nous choisisse comme ambassadeur. Mais là, la surprise est tout en plus énorme. C'est dans le rang des ennemis que Dieu choisit ceux qui l'ont utilisé comme ambassadeur. Dans ceux qui lui étaient hostiles, parmi ceux qui le rejetaient, qui ont participé à la mort de son fils, c'est là qu'il va chercher ses ambassadeurs. Et pour ça, on lui doit une loyauté sans faille. Une loyauté sans faille. Vous imaginez si on envoyait un ambassadeur dans une nation étrangère, il est chargé de garantir la paix avec telle nation. Il se rend là-bas et au cours d'un repas, il s'emporte, non, ça ne va pas du tout, et finalement c'est la guerre. Allez, c'est la guerre. Ça, c'est pas un ambassadeur, il n'y a rien d'un ambassadeur. Il est chargé de garantir la paix, d'annoncer la paix, alors il doit être loyal à celui qui l'a envoyé. Ici, il y a un message clair qui doit être annoncé. Et on l'entend, l'apôtre Paul. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Et comme dit tout à l'heure, ça peut être difficile d'annoncer ce message de réconciliation à des personnes qui estiment qu'elles n'ont rien fait contre Dieu. Pourtant, il va falloir dire cette hostilité. Sinon, c'est le sens de son sacrifice. C'est la beauté de l'œuvre de réconciliation qui n'aura aucune saveur. Parce qu'au cœur de l'Évangile, il y a le sacrifice de Christ. Et c'est ce vers quoi l'apôtre Paul va. Il a parlé de ses motivations, on a parlé de sa perspective, mais au cœur du message, et au-delà même d'être ambassadeur, c'est au sacrifice de Jésus. On en retrouve ici, au verset 21, comme un des joyaux du Nouveau Testament, un résumé très court de l'Évangile. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et quand on y pense, c'est renversé. Personne ici n'aurait mis sur sa liste des ennemis. Personne ici n'aurait envie d'avoir un casier judiciaire, un coupable. Personne ne voudrait être injustement chargé d'une mauvaise réputation. Chacun d'entre nous sommes coupables. Le seul véritable juste, le seul véritable juste a pris notre culpabilité sur lui. Le seul qui avait un casier vierge a accepté de le prendre pour prendre le nôtre. Le seul qui était le véritable juste, sans aucun mal à se reprocher, est mort pour ses ennemis. Et en parcourant ce passage, est-ce que vous avez ressenti la culpabilité? Moi, j'en ressens. Que ce soit dans les motivations, souvent je me parle, la crainte du Seigneur, l'amour qui me presse, culpabilité de ne pas avoir la bonne perspective de ma vie, des autres, culpabilité de ne pas être un bon ambassadeur. Mais vous savez quoi? Même cette culpabilité-là, il l'a portée. Il pardonne, il me pardonne encore, puisque cela est le couvre de sa justice, de sorte que précisément, conscient de la grâce qui nous est faite, nous soyons ses ambassadeurs. Vous avez fait la prière. Notre Dieu, notre Père, tu sais combien nous étions loin de toi, par nos pensées, par nos actes, par nos paroles, que tu nous as rapprochés. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'être changés par ce message, par le cœur de ce message, par celui qui est mort alors qu'il était parfaitement juste, à la place des coupables. Accorde-nous, Seigneur, de changer dans notre perspective, dans notre manière de voir notre vie, qu'on puisse vivre pour nous-mêmes celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des motivations saines lorsque nous faisons. Et tu sais combien nous sommes en vie. Accorde-nous la joie d'être purifiés, régulièrement purifiés dans nos motivations, de sorte que nous puissions aimer et servir à fin de ton nom. Et nous te prions pour cette église, pour chacun d'entre nous, pour chacun des absents ici. Accorde-nous en tant qu'église d'avoir ce message au cœur, cette perspective, ces motivations. Au nom de Jésus.